I could never stop at the wire. Let me say, love ensemble, c'est possible maintenant. L'amour et le pardon, nous le devons à nos enfants. Nous allons effacer les erreurs du passé. Il y a tellement de bonnes choses à partager. L'amour ensemble, c'est possible. Wow, 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 wow. L'amour ensemble, maintenant. Wow, yeah. MSI.
Radio de la paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre. Radio de la paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, César Yao.
Bonjour à tous, le sommaire de ce vendredi 7 heures. Situation au Niger, la CEDEAO opte pour l'activation et le déploiement de sa force en attente pas afin de rétablir l'ordre constitutionnel. Et puis à son retour de ce sommet, le président ivoirien a précisé entre autres décisions prises, la libération et la réinstallation sans condition du président Mohamed Bazoum à la tête du Niger. Concernant le déploiement de la force de la CEDEAO en attente, eh bien Alassane Ouattara a indiqué que la Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour que ces soldats ne manquent de rien. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. L'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance avec un taux de plus de 7% projeté pour la période 2023-2025. Cette résilience de l'économie ivoirienne malgré les chocs extérieurs qu'elle a subi est entre autres due à la mobilisation des ressources fiscales internes selon Yao Prao Séraphin, enseignant à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Dans l'actualité internationale, crise au Niger, la CEDEAO, on vous l'a dit, active sa force en attente, mais continue à chercher une résolution pacifique. Jean-Claude Comé passera en revue les titres des journaux ivoiriens du jour et recevra, dans le cadre de l'invité de la rédaction, Okone Tanguy Dimitri, directeur des affaires juridiques et des enquêtes pour et des requêtes pour parler de l'initiative du médiateur de la République qui mène des actions de sensibilisation des populations dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire pour des élections locales du 2 septembre apaisées et sans violence. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Situation au Niger, la CEDEAO opte pour l'activation et le déploiement de sa force en attente afin de rétablir l'ordre constitutionnel. En tout cas, c'est la principale décision prise lors de son deuxième sommet tenu jeudi à Abuja au Nigeria sur la question. Eh bien, à son retour de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement, le président ivoirien Alassane Ouattara est revenu sur quelques points des décisions arrêtées.
Nous avons réaffirmé à l'unanimité que le président Mohamed Bazoum est le président légitime, légal et démocratiquement élu de la République du Niger. Deuxièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger. Bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Alors, la CEDEAO a dépêché plusieurs émissaires, dont l'ancien chef d'État du Niger, le président Abdou Salam Aboubakar et le sultan de Sokoto, Saad Aboubakar. Mais ils n'ont pas été reçus par les putschistes. Cela est contraire à nos traditions africaines. le constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Il nous a été présenté le concept d'opération et le plan d'opération du comité des chefs d'État-major de la CEDEAO. Et ce plan a été validé. Et les chefs d'État ont marqué un accord pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières. Les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ses troupes. Je voudrais indiquer que ces décisions sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces trois pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt.
À l'instant, la déclaration du président ivoirien Alassane Ouattara à son retour d'Abuja. Tout autre chose dans ce journal, le phénomène des candidats indépendants aux élections municipales et régionales suscite des débats passionnés et dans les chapelles politiques d'où sont issus d'ailleurs la plupart de ces candidats indépendants. Des menaces de sanctions sont brandies au RHDP, au PDC-IRDA et au PPACI. Et bien pour Mohamed Nguessan, professeur titulaire d'histoire contemporaine à l'université de Cocody, cette situation est l'expression d'une vitalité de la démocratie. Nous l'écoutons.
Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. À l'époque coloniale, déjà, en 1957, le candidat Hichier Assouan, à Grand Lao, s'est présenté contre l'avis du PDC-RDA parce qu'il a estimé que le candidat sortant n'était pas soutenu par la base. Ça, c'est déjà en 1957. Et lorsqu'on vient à la période postcoloniale en Côte d'Ivoire, il y a foison d'exemples. En 2013, sont 12 élus indépendants au municipal, sont 12 élus indépendants. C'était la première force politique en Côte d'Ivoire déjà, en 2013.
Le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, menace les indépendants. Le PDCI de Henri Konan-Bédier menace les indépendants. Le RHDP d'Alassane Ouattara menace les indépendants. C'est normal?
Mais moi je pense que c'est une faiblesse. C'est une faiblesse de la part de tous ces partis parce que on menace lorsqu'on n'a plus d'arguments. Mais comment pouvez-vous expliquer, prenant le parti au pouvoir, que quelqu'un ait deux ou trois postes, même si c'est le bon cheval? Mais ça pose problème, ça pose un cas de conscience.
Le cumul?
Oui, le cumul, bien sûr. De cumul. Ministre, on est maire, on est député, et puis ensuite on est candidat aux élections régionales. Ça pose problème.
Voilà à l'instant, professeur Mohamed Nguessan, professeur titulaire d'histoire contemporaine à l'université de Cocody, a été joint par Soro Adams. Depuis quelques jours, la médiatrice déléguée de la région de Gbeke sillonne les localités de sa circonscription pour sensibiliser les populations à des élections municipales et régionales apaisées du 2 septembre prochain. Joseph Assalé, notre correspondant régional, a suivi l'étape de la sous-préfecture de Guébonois. Voici son reportage.
En rencontrant les leaders communautaires, les hommes politiques, la chefferie traditionnelle, les guides religieux et les populations de Guébonois, la médiatrice déléguée de la région de Gbeke n'a eu qu'un seul mot à la bouche. Annelone Kona Clarisse.
Les élections, c'était un jeu démocratique. Déjà, on sait qu'il y aura un perdant et un gagnant. Il faut éviter la haine, des propos disgracieux. Il faut être tolérant et surtout savoir gérer la rumeur.
Particulièrement à l'endroit des jeunes et des leaders politiques, la médiatrice déléguée de Gbeke a insisté sur leur rôle dans le maintien de la cohésion sociale et la paix avant, pendant et après le scrutin du 2 septembre prochain.
À la jeunesse de Guébonois, alors je voudrais vous exhorter à ne pas céder à la violence, mais au contraire, à cultiver la paix autour de vous. Aux leaders des partis politiques, utilisez le bon ton.
Un climat apaisé durant tout le processus électoral est le leitmotiv des populations de Guébonois.
Nous voulons aller à des élections apaisées.
Yeboué Solange, nous sommes prêts pour une élection apaisée, dans la paix et la cohésion sociale.
Kouassi Aimé, la politique, c'est comme un match de football. Il y a toujours un perdant, il y a un gagnant, mais il faut toujours la cohésion, vivre dans la paix.
Les représentants des partis politiques se sont engagés à travers la signature d'une charte de bonne conduite à préserver la paix et la cohésion sociale. Joseph Assalé, Guébonois, Radio de la Paix.
Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a organisé récemment un panel à l'intention de ses points focaux médias en prévision des élections régionales et municipales du 2 septembre prochain, intitulé « Protection des journalistes en période électorale, enjeux, défis et perspectives ». Eh bien, ce panel visait à mettre en lumière le rôle et la sécurité des journalistes en période électorale. Là-dessus, écoutons Namizata Sangaré, la présidente du CNDH.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de notre interaction avec les médias. Nous avons créé ce qu'on a appelé un mécanisme média CNDH à l'effet de prendre en compte les préoccupations des hommes et femmes de médias, leurs conditions de travail et même aussi les entreprises de presse. Et nous sommes à la veille d'élections à enjeu. Élection le 2 septembre prochain. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons invité les points focaux droits de l'homme des médias pour venir les édifier sur comment écrire pour se protéger, comment contribuer à accompagner le gouvernement, comment accompagner l'organe de gestion des élections à l'effet d'organiser pour la Côte d'Ivoire des élections apaisées, des élections démocratiques au cours de laquelle les populations peuvent faire des choix éclairés parce qu'elles ont eu les bonnes informations au travers des écrits. Elles savent par exemple que pour une élection, c'est le meilleur projet de société qu'il faut choisir. Pas forcément mon cousin, mon oncle qui est candidat et tout. Et tout ça, c'est grâce aux écrits de la presse et des hommes de médias.
Voilà, c'était Namizata Sangaré, la présidente du Conseil national des droits de l'homme. L'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance avec un taux de plus de 7% projeté pour la période 2023-2025 selon le président de la République Alassane Ouattara dans son discours à la Nation du 6 août dernier à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alors comment expliquer cette résilience de l'économie ivoirienne malgré les chocs extérieurs qu'elle a subis, des chocs qui sont la COVID-19 et la guerre en Ukraine? Eh bien, voici des éléments de réponse avec le professeur en économie à Oprah Séraphin, également enseignant à l'université Alassane Ouattara de Boaké.
Il faut déjà noter que notre pays, quand même, depuis les indépendances, la Côte d'Ivoire est un pays qui a des fondamentaux solides. Nous avons plus de 2000 kilomètres, n'est-ce pas, de routes bitumées. Nous avons des infrastructures routières, hospitalières, universitaires. Donc je veux dire que la base est déjà là. Et puis à cela, il faut dire que depuis que le président Ouattara il est là, qu'il s'est engagé dans un certain nombre de réformes dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau du secteur industriel, au niveau du secteur tertiaire. Il y a des lois qui sont votées pour encourager effectivement les investissements publics et privés. Il y a l'industrie extractive et manufacturière. Il y a eu le BTP qui s'est bien comporté. Il y a eu le secteur du transport et de la télécommunication. À cela, il faut ajouter aussi le secteur privé qui a beaucoup contribué en termes d'investissements privés. Il y a eu beaucoup d'investissements directs étrangers dans notre pays. La consommation privée aussi a contribué fortement à la résilience de notre pays.
Alors, un point sur lequel le président ivoirien a insisté, c'est justement la mobilisation des ressources internes, notamment fiscales. Pourquoi cette orientation désormais, selon vous?
Cette orientation désormais, parce qu'à un moment donné, un pays doit pouvoir mobiliser effectivement l'épargne nationale et surtout au niveau de la fiscalité interne. Et aujourd'hui, le PIB par habitant de la Côte d'Ivoire se situe aux alentours de 2 200 $ par habitant. Le PIB a augmenté et aujourd'hui, la pression fiscale est tombée aux alentours de 12-13%. Ça veut dire que l'administration ivoirienne peut faire des efforts au niveau local pour pouvoir financer effectivement notre effort de développement.
Voilà, à l'instant, Yao Prao sera fait enseignant en économie à l'Université Alassane Ouattara de Boaké, joint par Jean-Claude Comé. Un atelier de formation et de sensibilisation des acteurs du secteur privé de la société civile sur les enjeux et les défis de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique intérimaire s'est déroulé récemment à Daloa. Il s'agit d'un accord de libre-échange entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, une opportunité qui nécessite une préparation des opérateurs économiques ivoiriens. Compte rendu signé, Jean-Noël Kwame.
Cet atelier a été l'occasion pour les participants de mieux s'informer sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique intérimaire. Amadou Ba, chef d'équipe de l'assistance technique du projet d'appui à cet accord de partenariat économique.
L'ouverture au niveau du marché européen est à 100%. La Côte d'Ivoire, c'est à peu près 80% des participants. La majeure partie vient des différentes filières, cacao, banane, anacarde, riz, etc. Parce que c'est des produits pour lesquels la Côte d'Ivoire est assez compétitive. Il y aura une concurrence avec la production locale. Celui qui va en bénéficier le plus, c'est le consommateur.
Koulibaly Nanien, coordonnateur adjoint du projet d'appui à la mise en œuvre de l'accord de partenariat, revient sur les opportunités pour les opérateurs économiques.
Sur une période de 10 ans, un opérateur économique qui souhaite exporter sur le marché européen n'a pas bien payé de droits de douane. Il faut qu'il se mette aux standards internationaux des normes et des qualités. Normalement, ce type d'accord devait nous permettre de créer des secs vertueux, des croissance et de développement économique. À tous les opérateurs économiques, voici une opportunité qu'ils ont, qu'ils aillent explorer le marché européen, mais qu'ils maintiennent aussi leur marché local. Tous les programmes au niveau du gouvernement concourent à relever le niveau de compétitivité des différentes entreprises en Côte d'Ivoire.
Plusieurs experts ont également échangé avec les participants sur les questions de mise à niveau des entreprises et les défis de la qualité et de la compétitivité des produits ivoiriens sur le marché européen. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Juste un mot de l'actualité internationale réunie à Abuja, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé d'activer, de déployer la force en attente de la communauté ouest-africaine pour la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger. L'option militaire semble ainsi enclenchée, même si des précisions sont encore nécessaires pour mieux comprendre la forme exacte que ce déploiement prendra. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Tout de suite, la revue des journaux ivoiriens avec Jean-Claude Comé. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour César, bonjour à tous. César, vous l'avez dit hein, dans votre information à l'instant en inter, oui, la situation au Niger capte l'attention de la presse, en tout cas avec le coup d'État contre le régime de Mohamed Bazoum. Et c'est sans contexte le sujet d'actualité qui intéresse le plus la presse, paru ce 11 août 2023. Pratinté Matin et l'Expression rapporte que de retour du sommet de la CEDEAO, qui a planché sur la question, le président Alassane Ouattara a réaffirmé la détermination de la CEDEAO à réinstaller Bazoum. Notre voix indique que l'option militaire a été confirmée hier à ce sommet des chefs d'État. La CEDEAO reste inflexible face à la junte, commente le patriote, qui note aussi que l'usage de la force est maintenu. L'Inter prévient que la CEDEAO active sa force en attente et comme pour justifier cette option, rapporte ce bout de phrase du président Alassane Ouattara hier à la reprise. Philosophe Aubagné, c'est la photo pochiste. Les jours des pochistes de Niamey comptés, s'interroge alors l'intelligent d'Abidjan. Mais il y a un autre son de cloche par rapport à cette option militaire et c'est le Bili Intrépide qui rapporte que le groupe parlementaire PPACI prend position et recommande le dialogue. Le quotidien d'Abidjan indique que des députés du PPACI appellent à un règlement par la voie du dialogue. La voie originale rapporte aussi hein, que ces députés exigent une autorisation parlementaire préalable en cas d'intervention militaire de la Côte d'Ivoire au Niger. Ici en Côte d'Ivoire, le deuil de la mort d'Henri Konan Bédé, l'ancien président, se poursuit avec une marche en son hommage hier. Marche silencieuse et pleure de nombreux jeunes de Daoukro, rapporte le Nouveau Réveil. Daoukro pleure Bédié, son leader charismatique, titre le Bélier. L'hommage exceptionnel au président Bédié fait remarquer le Bélier intrépide. Et puis, sur le plan politique, des journaux comme Le Matin et Le Temps s'intéressent aux indépendants. Pour en ce qui concerne donc l'élection locale dans le parti, dans les partis politiques, si l'un estime qu'ils ne sont pas en réalité une menace pour le RHDP, l'autre tente d'expliquer pourquoi le PPACI a suspendu ses indépendants. indépendants afin, et puis enfin, César, samedi, demain donc, le pont de Cocody sera ouvert à la circulation. C'est ce que réjouit de nombreux confrères.
Voilà, revue des titres signé Jean-Claude Comé. Jean-Claude, ne partez surtout pas puisque c'est vous qui recevez dans le cadre de l'invité la rédaction. Connaît Tanguy Dimitri, directeur des affaires juridiques et des requêtes pour parler de l'initiative du médiateur de la République qui mène des actions de sensibilisation des populations dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Invité donc.
Monsieur Kone Tanguy, bonjour.
Bonjour.
À l'approche des élections régionales et municipales du 2 septembre prochain, l'institution, le médiateur de la République, a décidé d'aller vers les populations pour lancer quel message précisément?
Les populations à l'approche des échéances électorales ont beaucoup d'inquiétudes et donc le médiateur de la République, qui a au nombre de ses missions le renforcement de la cohésion sociale, a souhaité s'impliquer très vite dans la sensibilisation pour des élections apaisées. C'est pour cela que le médiateur de la République, M. Adama Tungara, depuis le 22 juin, a donc lancé cette campagne de sensibilisation depuis le siège de l'institution à Yamoussoukro et a donc mis en mission les médiateurs délégués et ses collaborateurs du siège de l'institution dans tous les départements de Côte d'Ivoire. Le message, c'est de dire à la fois aux chefs traditionnels, aux chefs coutumiers, aux leaders d'opinion, qu'il est important de sensibiliser les populations pour que ces élections locales, qui sont des élections de développement, puissent se dérouler dans le calme afin de pouvoir continuer, n'est-ce pas, le développement de nos différentes régions et de nos différentes communes. C'est le message que nous entendons livrer aux différentes populations et aux leaders politiques.
Alors, votre structure, le médiateur de la République, justement, a pour rôle de régler les conflits. Mais pourquoi vous anticipez déjà? Est-ce que pour vous, c'est dû à des signaux qui vous interpellent?
Non, en réalité, c'est la mise en œuvre de la politique du médiateur de la République. En prenant fonction, il a donc décidé de faire une médiation proactive. Donc, l'idée du médiateur de la République, c'est toujours anticiper sur la survenance des conflits. Et comme nous savons qu'en Côte d'Ivoire, les périodes électorales, parfois, sont émaillées de violence. Et donc, le médiateur a voulu, justement, par rapport à sa politique de médiation proactive, prévenir tout conflit électoral. D'où cette mission de sensibilisation dans les différents départements de Côte d'Ivoire.
Quelles sont les différentes zones qui vous intéressent et votre itinéraire justement dans ces missions de sensibilisation?
En réalité, cette mission a lieu sur toute l'étendue du territoire national, donc dans les 110 départements, et elle va s'achever à Abidjan dans les 10 communes du district d'Abidjan ainsi que dans les sous-préfectures autour d'Abidjan. Il y aura des élections notamment à Niama, à Benjaville et à Songon. Donc, c'est plusieurs équipes qui sont sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire national. Comme je l'ai dit, les médiateurs délégués qui couvrent plusieurs régions du pays sont donc actifs sur le terrain, mais également des équipes venant du siège de l'institution investissent les zones où il n'y a pas encore de médiateur délégué.
Cette initiative n'est pas la première. Quel feedback vous avez des initiatives antérieures quant au message perçu par les populations?
Nous pensons que l'action du médiateur est d'une importance capitale dans la mesure où elle permet de limiter. C'est vrai qu'en 2020, nous avons connu, malgré cette campagne de sensibilisation que nous avons menée, il y a eu quelques violences dans certains endroits, mais nous pensons que il faut toujours avoir le courage d'aller vers les populations et leur parler. Et comme vous le savez, c'est en insistant que finalement on arrive à obtenir des victoires. Et donc nous espérons que cette campagne que nous avons lancée beaucoup plus tôt par rapport à 2020 va donc porter ses fruits.
Pour la stratégie de suivi, après donc cette mission, qu'est-ce que vous comptez faire pour que justement ces populations-là puissent continuer à mettre en œuvre vos recommandations?
Oui, depuis 2020-2021, nous avons mis en place dans tous les départements des comités de veille et de suivi de la cohésion sociale. Et ces comités comprennent l'ensemble des leaders d'opinion, des chefs traditionnels des différents départements. Et donc, lorsque nous arrivons pour la sensibilisation, par la même occasion, nous mettons en mission ces comités de veille afin d'assurer le relais dès lors que ces missions seront donc achevées. Et un important additif à apporter, c'est que nous ne nous limitons pas à la sensibilisation. Nous contactons les leaders politiques de sorte à ce que ces leaders politiques-là puissent signer une charte d'engagement à la paix. C'est donc l'innovation majeure par rapport à notre campagne de sensibilisation que nous avons menée en 2020. Et cette fois-ci, nous amenons les leaders politiques à vraiment s'engager à pouvoir préserver la paix pendant toute cette période à travers la signature solennelle et publique d'une charte.
Alors pour terminer, quel est l'appel officiel donc du médiateur de la République à ces populations que vous visitez par votre voix, M. Kone Tanguy Dimitri?
Oui, la voix du médiateur, c'est de dire aux uns ou aux autres peu. Ces élections sont juste une compétition, c'est juste un jeu. Et donc, davantage un jeu parce qu'il s'agit d'élections locales. Donc, parfois, c'est des frères qui sont donc en compétition. Et il est important de pouvoir préserver les relations fraternelles, les relations familiales pour le développement des différentes communes, des différents départements. Et le plus important, c'est qu'on puisse aboutir à des villes encore plus propres, des villes encore plus reluisantes pour le bonheur de tous et de chacun. Parce que comme vous le savez, ces scrutins sont des scrutins proportionnels, de sorte que en réalité, nous considérons qu'il n'y a pas totalement de perdants ni de gagnants. C'est vrai que il y a certains qui seront donc déclarés élus, mais compte tenu de la proportionnelle, même ceux qui ont perdu auront certainement leur place au sein des conseils régionaux, des conseils municipaux pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice dans le développement de ces régions et de ces communes.
Monsieur Kone Tanguy Dimitri, je vous remercie.
C'est nous que vous remercions.
Voilà, à l'instant Kone Tanguy Dimitri, directeur des affaires juridiques et des requêtes, était avec Jean-Claude Comé dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui referme les pages de ce journal, le rappel des titres. Situation au Niger à son retour de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement. Le président ivoirien a précisé, entre autres décisions prises, de la libération et la réinstallation sans condition du président Mohamed Bazoum à la tête du Niger. Concernant le déploiement de la force de la CEDEAO en attente, Alassane Ouattara a indiqué que la Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour que ses soldats ne manquent de rien. Vous l'avez entendu dans ce journal. Puis c'est le même sujet d'ailleurs dans l'actualité internationale où la CEDEAO active sa force en attente mais continue à chercher une résolution pacifique. Et c'est la fin de ce vendredi 7h. Retour à l'actualité 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.